8h, le samedi, c'est le journal d'Hélène Roussel. Bonjour Hélène.
Bonjour. Une lutte de géants et la terre a tremblé sur le Châtrier. Quand les superlatifs sont dérisoires, un match qui rentre dans l'histoire. Djokovic-Nadal hier soir, demi-finale, Roland-Garros, 4 heures de combat. Un public en folie autorisé à rester malgré le couvre-feu. Le roi de Roland-Garros tombe, c'est le Serbe qui part en finale. Soirée électrique, on vous raconte dès le début du journal. Dans l'actualité encore, la menace d'une marée noire au large de la Corse. Une nappe d'hydrocarbures de 35 km se dirige vers les côtes. Le préfet déclenche le plan Polmar. Jamais les cas de Covid n'ont été aussi bas depuis le mois d'août. Même les scientifiques sont surpris, vous l'entendrez. Et puis du foot, 3-0 pour l'Italie face à la Turquie hier soir en match d'ouverture de l'Euro. Le foot européen, on en reparle dans notre esprit sport à la fin du journal.
Et à partir de 8h20 ce matin, nos invités, question à deux candidats au régional. D'abord, David Racheline du Rassemblement National. Il fait partie de la liste emmenée par Thierry Mariani en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et ensuite, question à Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Il conduit la liste L'écologie, évidemment, en Ile-de-France.
France Inter.
Le couvre-feu vole en éclats, car c'est un séisme sur le Châtrier. Djokovic-Nadal, demi-finale Roland-Garros, match hors norme hier soir, on va y revenir. Mais d'abord un aperçu de l'ambiance, survoltée dans les gradins, encore plus quand l'annonce tombe. Les spectateurs ont exceptionnellement le droit de rester jusqu'au bout, au-delà donc du couvre-feu. Voilà, il faut dire que c'est un match fou, hein. Deux monstres sacrés de la terre battue qui se connaissent par cœur, qui combattent chaque point avec la rage des plus grands. Une lutte spectaculaire déjà culte. À la fin, c'est le Serbe qui gagne. Finale demain face à Tsitsipas. Nadal, le maître des lieux, 13 fois vainqueur de Roland-Garros, est donc tombé. 3-6, 6-3, 7-6, 6-2. Fabrice Abgral raconte cette page d'histoire.
Certains matchs en grand chelem, souvent des finales, sont destinés à entrer dans les annales. Et puis il y en a d'autres, comme celui d'hier, situé à part, tout là-haut, entre le sublime et le génial. Certains parleront d'un match dantesque ou épique. D'autres évoqueront un duel d'anthologie ou homérique. En fait, sans exagérer, tout est vrai. Parce qu'hier, Djokovic et Nadal ont offert un spectacle grandiose, produisant un tennis d'une intensité et d'un niveau de jeu jamais atteint à Roland-Garros. Et ça, Novak Djokovic ne l'oubliera jamais.
C'est le meilleur match auquel j'ai participé à Roland-Garros. Le fait d'avoir affronté mon plus grand rival sur un court où il a eu autant de succès, c'est juste incroyable. C'est l'une de ces nuits, l'un de ces matchs dont on se rappelle pour toujours.
Malgré cette défaite, la première en demi-finale, Rafael Nadal a vécu hier soir un grand moment de sport chargé d'émotions. Il a tenu à saluer le public qui, pour la grande majorité, était entièrement acquis à sa cause.
J'ai été étonné par leurs encouragements. La foule m'a donné de l'énergie pour continuer. C'était super émouvant de sentir l'amour des gens. Merci à eux.
Ironie de l'histoire, c'est l'année où la Fédération française de tennis a décidé d'inaugurer une statue en l'honneur de Rafael Nadal que la légende espagnole a été déboulonnée.
Une réaction encore hier soir, celle du français Nicolas Mahut qui dispute tout à l'heure la finale du double. Comment s'appelle le sport que pratiquent Nadal et Djokovic, écrit-il sur Twitter. Je ne connais pas, mais ça a l'air vachement bien. Hashtag légende. Place aux femmes hein, cet après-midi, la finale entre Anastasia Pavlyuchenkova et Barbora Krejcikova.
L'actualité, c'est aussi cette question. Est-ce une marée noire qui pointe au large de la Corse?
Ça y ressemble beaucoup. Une nappe d'hydrocarbures de 35 km de long repérée sur la côte est, dans le secteur Aleria-Solenzara. Elle dérive vers les côtes. Résultat visiblement d'un dégazage. Les opérations de dépollution commencent ce matin. Deux navires sont partis de Toulon avec à bord du matériel et du personnel spécialisé. La capitaine de vaisseau Christine Ribes de la préfecture maritime de Méditerranée basée à Toulon, jointe il y a quelques minutes par Serge Martin.
C'est une nappe qui fait environ 35 km de long, probablement issue d'un dégazage d'un navire qui rejette à la mer des eaux souillées d'hydrocarbures. C'est une pollution qui est relativement étendue et notamment avec à l'intérieur des hydrocarbures lourds et qui donc ne vont pas se diluer de manière naturelle. Dès hier après-midi, hein, dès qu'on a eu connaissance de cette pollution, on a tout de suite envoyé un avion à la Marine nationale pour aller repérer, analyser, voir si c'était le cas. Dès qu'on a eu confirmation des faits, on a envoyé un premier moyen sur zone pour effectuer des prélèvements. Et puis on a envoyé plusieurs moyens nautiques d'abord, des moyens... Donc ce matin, il y aura la vedette des affaires maritimes Mimosa. On aura également un remorqueur de Bastia. l'Altagne, qui va être sur place. Et puis on déploie aussi deux moyens lourds, des bâtiments affrétés de la Marine nationale, le Jason Pionnier depuis Toulon, avec du personnel spécialisé et du matériel notamment spécifique de lutte anti-pollution.
Et le préfet de Haute-Corse a déclenché le plan Polmar. Première consigne, surtout ne pas toucher ou enlever soi-même les galettes qu'on pourrait très vite retrouver sur ces plages.
Pour la première fois depuis fin août, la France passe sous la barre des 5000 cas Covid par jour.
Une chute rapide, moitié moins de contaminés en une semaine. Une telle baisse en si peu de temps, les scientifiques ne l'avaient pas prévu, ne cachent pas leur surprise et tentent d'expliquer. Daniel Lévy-Brulle, épidémiologiste pour Santé publique France.
Cette situation est effectivement plutôt plus favorable que ce que nous pouvions prédire il y a quelques semaines. Il y a certainement bien sûr la vaccination qui continue à augmenter dans toutes les tranches d'âge et en particulier chez les jeunes adultes. Il y a probablement aussi un facteur saisonnier avec une météo favorable. Également, c'est important de le dire, le fait que l'allègement de ces dernières semaines a été progressif avec un respect important des mesures barrières par la population. Et puis, je crois que la situation actuelle nous rappelle à quel point il nous faut rester, nous, épidémiologistes, modélisateurs, humbles parce que on ne comprend pas tout, loin de là, des cycles épidémiques de ce virus, comme d'ailleurs en général de l'ensemble des virus à tropisme respiratoire. Comme vous le savez, pour la grippe par exemple, on ne comprend pas toujours pourquoi elle apparaît à tel moment, pourquoi est-ce qu'au bout de quelques semaines elle commence à décrue. Ce mystère, eh bien, pour l'instant il nous est favorable, mais il pourrait ne pas l'être dans l'avenir.
Daniel Lévy-Brulle de Santé publique France. Vigilance donc à propos du vaccin. Le cap des 30 millions de Français qui ont reçu au moins une dose sera franchi aujourd'hui avec 3 jours d'avance. Se félicite le Premier ministre Jean Castex sur Twitter. Mais les prises de rendez-vous pour la première dose sont en chute libre, moins 44% selon Doctolib par rapport au pic de début mai. Aurait-on atteint une sorte de plancher de verre? Une nouvelle campagne de communication a été lancée. Autre bémol, le variant indien, celui qu'on appelle désormais Delta, semble par endroits prendre de l'ampleur. En Alsace, cluster à la Haute École des Arts du Rhin et puis dans les Landes. Difficile encore de juger combien de personnes contaminées, mais le variant circule sans inquiéter pour l'instant les autorités. Ce variant indien, c'est bien à cause de lui si le Premier ministre britannique Boris Johnson prévoit de repousser la date du déconfinement total. Selon la presse, ce ne sera pas le 21 juin prochain comme prévu, mais le 19 juin. Et puis des centaines de jeunes réunis hier soir sur l'esplanade des Invalides à Paris pour sauter, danser, boire, une fête géante non masquée qui s'est terminée vers minuit dans les gaz lacrymogènes. Dispersion difficile pour les forces de l'ordre.
Il y a eu la gifle contre Emmanuel Macron. Et bien 4 jours plus tard, le candidat de La République En Marche dans les Pays de Loire a été enfariné.
Des actes isolés ou symptomatiques d'un climat délétère. François de Rugy en terrasse hier soir dans le quartier du Bouffet en plein centre de Nantes, attaqué par une femme. Elle lui jette de la farine au visage en criant « Rends le homard !» Elle a été interpellée juste après. Le débat toujours, les agressions physiques jamais, a tweeté dans la foulée François de Rugy, l'ancien ministre de l'Environnement qui va porter plainte. Et puis à une semaine des régionales, ces manifestations un peu partout en France. Aujourd'hui, militants politiques, syndicaux, écologistes associatifs mobilisés contre l'extrême droite. Pour ces régionales, nous vous proposons une série sur France Inter tous les matins dans le journal de 8h. Cette fois, direction l'île de la Réunion. 11 candidats qui ont débattu jeudi sur Réunion la Première. Résumé des enjeux avec Élodie Forêt.
Seule région d'outre-mer dirigée par la droite, la Réunion assiste à un match serré, en tête des sondages mais sans beaucoup de marge. Le président sortant Didier Robert, soutenu par LR, plutôt confiant.
En 2015, on me créditait le 27% et nous avons terminé le premier tour à 40%, ne confondons pas résultats et sondages.
Face à lui, une gauche divisée, la socialiste Erika Barecht et Huguette Bello, soutenue par les Insoumis, ne se sont pas entendus, mais pourraient fusionner après le premier tour, selon Huguette Bello.
Au soir du 20 juin, ces modalités seront débattues parce qu'il faut absolument, après la gestion calamiteuse qui a été mise en œuvre, que le sortant sorte.
Le sortant Didier Robert attaqué sur la nouvelle route du littoral, toujours inachevée, attaqué aussi sur les problèmes de circulation par Erika Barecht.
On perd 2 à 3 heures par jour de sa vie dans les embouteillages.
Didier Robert, à qui l'on reproche également sa récente condamnation pour prise illégale d'intérêt. Philippe Cadet, tête de liste du projet réunionnais.
Les réunionnais reçoivent ça comme une gifle. On nous fait honte. Les directeurs de ceci, les directeurs de cela. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce vie-là? C'est quoi cette société-là ?
Le président sortant qui n'est pas le seul à être poursuivi en justice. Un autre candidat, Olivier Hoarau, ex-suppléant d'Huguette Bello à l'Assemblée, est mis en examen pour corruption.
Autre élection, autre pays, jour de scrutin en Algérie sur fond de répression de l'opposition, législative partielle, 24 millions de personnes appelées aux urnes. Le pouvoir du président Tebboune, tout droit hérité de l'ancien régime, craint une abstention record. Nous serons en direct dans le journal de 9h. Enfin, même si les mentalités, la société bougent, c'est très lent et l'inclusion des personnes en situation de handicap reste encore aujourd'hui difficile. Pour tenter d'y remédier, voici la nuit du handicap, des animations ludiques dans près d'une vingtaine de villes en France. Reportage avec Hélène Chevalier.
L'objectif de cet événement, c'est de faire se rencontrer deux mondes qui s'ignorent encore trop, les valides d'un côté et les personnes en situation de handicap de l'autre, et ce, autour d'animations ludiques, des balades en vélo adaptées, des matchs de rugby en fauteuil, mais aussi des concerts, du théâtre, le tout dans une ambiance fraternelle, décrit Yanis Bustos, un des organisateurs de la Nuit du Handicap à Paris.
C'est ce qu'on met sur nos affiches. La rencontre est une fête. On cherche à sensibiliser le public au handicap en leur présentant sous forme d'animation pour leur montrer que le handicap, c'est pas forcément la déprime. On peut être joyeux, on peut faire des choses, on a des talents.
Car trop souvent encore, le handicap dérange, fait peur. Pour Marie-Caroline Chour, la porte-parole de la Nuit du Handicap, les efforts réalisés ces dernières années sur l'accessibilité ne font pas tout.
L'inclusion est quand même de plus en plus présente, mais je crois qu'une vraie inclusion n'est pas seulement de mettre une rampe d'accès pour rendre accessible un lieu public, par exemple, mais surtout oser la rencontre avec la personne, entre guillemets, différente. Et c'est là que la vraie inclusion se fait. C'est vraiment dans une rencontre de personne à personne.
La nuit du handicap sera ponctuée par un happening national à 18h, la reprise de la chanson de Grégoire, Toi et moi, en langue des signes.
Et toute la liste des villes, des animations à retrouver sur le site nuitduhandicap.fr.
8h12 sur France Inter, c'est l'heure des sports.
On a bien parlé du tennis au début de ce journal. L'autre événement sportif de la soirée, vous le savez, c'était le coup d'envoi de l'Euro de foot et la raclée pour les Turcs. Les Italiens s'offrent un joli 3-0 en match d'ouverture. Parmi les matchs à suivre aujourd'hui, on retiendra notamment le clou de la soirée, les Diables Rouges, la Belgique qui joue en Russie. L'Euro de foot également dans notre esprit sport ce matin. Bonjour Laetitia Bernard.
Bonjour.
Vous nous parlez de ce geste qui divise le foot européen en ce moment, mettre un genou à terre avant le coup d'envoi pour dénoncer le racisme.
Ce geste symbolique, on le connaît maintenant, il s'est popularisé dans les milieux sportifs. Et demain, si vous regardez le match entre la Croatie et l'Angleterre à Wembley, vous verrez les joueurs anglais mettre un genou à terre avant le coup d'envoi. Ils le feront d'ailleurs sur chacune de leurs rencontres. Les Écossais également, même s'ils avaient annoncé l'inverse en milieu de semaine. Et puis, lors des derniers matchs, de récents matchs amicaux ou de qualification, on a pu voir la Belgique, la Suisse le faire, ou à l'inverse, certaines équipes restaient debout quand leurs adversaires s'agenouillaient.
Et le fait est que cette initiative commence à être critiquée.
Déjà par une partie des supporters britanniques, des supporters anglais qui ont sifflé leur propre équipe à ce moment-là, lors des derniers matchs de préparation à l'Euro. L'affaire est même remontée jusqu'au bureau du Premier ministre. Et puis surtout, certains joueurs disent clairement que la signification de ce geste, elle n'a plus le même poids. Elle devient une sorte de routine d'avant-match qui n'empêche pas d'être toujours victime d'insultes racistes.
Ouais, c'est bien là le cœur du sujet, Laetitia. Toujours difficile de faire changer les choses en profondeur.
Oui, les footballeurs anglais sont particulièrement mobilisés sur la question. Plusieurs d'entre eux sont régulièrement la cible de commentaires racistes, notamment sur les réseaux sociaux. Dès 2019, l'attaquant emblématique Raheem Sterling avait publié un manifeste dans le Times pour que les choses changent. Et on pense aussi à ce boycott total des réseaux sociaux au printemps, quand pendant tout un week-end de compétition, plus aucune publication n'avait été faite durant donc tout ce week-end par l'ensemble des équipes de haut niveau du foot anglais. Et donc, durant 7 euros, la sélection anglaise, elle va continuer à s'agenouiller contre le racisme. Gareth Southgate, le sélectionneur, l'a confirmé. Nous sommes totalement engagés à nous soutenir les uns les autres. Nous acceptons qu'il puisse y avoir une réaction indésirable, mais nous allons tout simplement l'ignorer et aller de l'avant.
Merci Laetitia Bernard. Puisqu'on parle de foot, où est-ce qu'on pourra regarder les matchs de Ligue 1 l'an prochain? Sur quelle chaîne? En voilà une bonne question. Ouais. Le Grand Bazar. La Ligue de foot professionnelle a jeté une bombe. Elle a vendu 80% des droits de retransmission à Amazon. Canal+ devait se contenter du reste, mais après avoir épongé le fiasco de Mediapro, la chaîne cryptée a tout simplement claqué la porte. C'est le cafouillage.
C'était le journal d'Hélène Roussel. Le temps de ce dimanche.
La météo avec Euromaster.
toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Le temps de ce samedi, j'ai bien dit, avec des températures qui montent, qui grimpent, Jean-Michel Golinski.
Des températures de 10 à 15 degrés en général au réveil, mais déjà largement supérieures à 20 degrés autour de la Méditerranée, avec par exemple 25 à 7, 24 à Perpignan, 22 à Nîmes et à Nice. Le ciel matinal est dégagé sur la plupart des régions, exception faite des zones littorales, notamment celle de la Manche. Il y a également beaucoup de nuages bas au sud de la Garonne. Toutes ces grisailles vont rapidement se lever, sauf du cap Griné à la baie de Seine, où elles mettront quand même beaucoup plus de temps à évoluer. Maintenant, au mieux, les températures à une vingtaine de degrés cet après-midi. Partout ailleurs, le soleil vaillant va faire grimper les thermomètres entre 27 et 30 degrés au nord d'une ligne La Rochelle-Lyon et jusqu'à 32-34 du sud-ouest au pourtour méditerranéen.
Jean-Michel Golinski, Météo France.